Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision. Vous verrez, ça fait du bien.
Qu'est-ce qui nous arrive là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est l'heure. Bah oui, c'est l'heure de l'émission. Dans un endroit très particulier aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont des mains qui donnent la parole.
Bernard Moffret, c'est quoi le bois idéal?
Ah mais il n'y a pas de bois idéal, tous les bois sont idéaux d'une certaine façon. C'est une matière vivante, donc il faut l'accepter avec ses particularités, mais évidemment elle n'a pas d'équivalent.
Vous l'avez compris, on va parler là, dans la suite de cette émission, du bois, mais pas que du bois, de celui et d'un de ces artisans qui travaillent le bois. On va voir ça tout de suite ensemble. Allez, en route vers de nouvelles aventures.
Vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bernard Moffret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un travailleur du bois, c'est comme ça que je vous ai surnommé, mais c'est pas le nom de votre métier, bien sûr. C'est quoi votre métier exactement?
Moi, je suis parti d'une base de charpente, puisque c'est la première chose que j'ai explorée chez les compagnons quand j'avais 17 ans, et donc à partir de là, j'ai suivi un parcours de la charpente, qui est passé aussi par l'architecture, par la facture instrumentale. J'ai fait pendant 15 ans des percussions. Et puis après, je suis parti dans l'aventure du mobilier contemporain et du prototype pour les designers. Et là, je continue un peu dans cette voie-là, toujours une espèce d'exploration des univers du bois à travers la construction de bateaux, à travers les œuvres d'art, à travers les choses comme ça, quoi.
Vous êtes très polyvalent, vous venez de nous le raconter, et on est très heureux de vous accueillir dans l'étincelle dans la ville aujourd'hui, parce que ça rentre dans le cadre d'une semaine thématique consacrée aux artisans à Paris, puisque nous sommes à Ligre installés à Paris. Et bien sûr, on s'est rendu avec plaisir auprès de vous aujourd'hui au 37 bis. Alors le 37 bis qu'on appelle aussi la cour de l'industrie, là où vous êtes installé, ça vous plaît hein, d'être ici?
Moi je suis à Paris depuis une trentaine d'années. J'ai fait une aventure bateau pendant 6 ans. Et c'est vrai qu'autant les bateaux étaient assez formidables pour l'exploration de ce nouveau domaine que j'avais pas approché, mais qui est familialement ancré, puisque mon Mon grand-père était capitaine au long cours, donc il fallait que j'aille vers ça un jour. Et la porte est soudain ouverte quand le 37 bis a été mis en œuvre pour la restauration totale des bâtiments.
Et vous étiez proche de la mer, finalement.
Voilà, donc pendant cette période-là, pendant 6 ans, j'ai travaillé pour la construction et les aménagements de bateaux bois, tout particulièrement, au chantier du GIP. Mais au bout de ce temps-là, je m'ennuyais un peu de l'univers infiniment varié qu'on a ici. Et c'est pour ça que cet endroit est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup d'artisans d'art et d'artistes, et notamment une bonne partie avec qui je peux travailler pour des combinaisons de compétences, pour répondre soit à des marchés dans la restauration, soit des pièces de création, soit des installations d'artistes, des sculptures, des choses comme ça.
Vous venez de nous le raconter, vous balayez un large spectre de la menuiserie, de la charpente, du bois, du travail du bois, on va dire ça plutôt comme ça, ça sera plus simple.
Oui, et puis il y a du travail du bois, puis de l'exploration, parce que dans le bois, il y a aussi la matière bois peut être mise en œuvre de façon différente et de façon exploratoire grâce à des gens qui déposent des brevets et qui après trouvent des idées qu'on peut récupérer pour les appliquer, parce que souvent ils ont des brevets qui sont plus basés sur des procédés. Et après, ils cherchent souvent qui peut mettre en œuvre ce qu'ils ont pu développer. Et ça, c'est absolument formidable, parce que c'est vraiment le domaine insoupçonné du bois, c'est que c'est un matériau technologique, c'est pas seulement une matière traditionnelle.
Voilà, on a l'idée dans l'imaginaire collectif que le bois, ça sert soit pour le chauffage, soit pour installer une étagère, fabriquer un meuble, mais ça va bien au-delà techniquement, vous venez de nous le raconter. Alors, on va éviter d'aller trop dans la technique, mais on va quand même voir avec vous ce que vous fabriquez finalement. Hein. Alors ici, on est dans votre atelier, je suis ravi d'y être avec vous pour que vous nous racontiez. J'ai sous les yeux tout ce qui s'y passe, tout ce que vous y créez, et notamment, alors, le mobilier, c'est quand même une partie importante pour vous. Alors, devant moi, quand je suis passé la dernière fois, vous étiez déjà en train de travailler dessus, un drôle de mobilier en forme étrange. Qu'est-ce que c'est ?
Alors ça fait partie de des meubles de ma collection. C'est-à-dire, je dessine quelques meubles quand même et je les mets dans une collection que je propose. Et ils sont fondamentalement faits sur mon trajet. Donc on va dire que c'est un peu de la charpente en meuble. Donc c'est des structures assez complexes avec beaucoup de géométrie dans l'espace. Et moi, ce qui m'avait inspiré ça, c'est que quand j'étais dans l'univers de la charpente, on s'aperçoit à quel point il y a un génie graphique et technologique, hein, parce que tout ça, c'est des éléments qui doivent supporter des contraintes. Et ça, c'est complètement ignoré de chacun. Et comme moi, j'étais plus proche du domaine du mobilier, je me suis dit, je vais créer des lignes de meubles qui s'inspirent énormément de ce domaine-là, mais qui ne sont pas des maquettes de charpente, qui sont réellement des meubles d'usage.
Alors, ce qu'on a sous les yeux, c'est une future table.
Voilà, ça c'est une assez grande table, puisqu'elle va supporter un plateau d'un diamètre de plus de 2 mètres. Et puis, donc, elle a cette espèce de géométrie qui est tout à fait particulière et qui fait que elle a une identité forte. Et par ailleurs, elle est quand même conçue pour être très ergonomique, c'est-à-dire qu'aucun pied jamais ne peut contrarier celui qui s'assoit.
Effectivement, on peut s'y mettre à combien autour de cette table ?
Bon, une table comme ça, on peut mettre une quinzaine de personnes sans problème, quoi.
Un tout petit support finalement pour 15 personnes et une architecture. Alors, je laisse les auditeurs aller voir sur votre site internet si vous la mettez peut-être en photo, vous la mettrez peut-être, j'en sais rien.
Oui, elle est présente, oui.
Elle est présente.
Elle est présente sur le site ainsi que mes petites pièces de création. Et puis, il y a des petits exemples aussi de ce que je fais pour les autres parce que je travaille beaucoup pour des créateurs.
Ça, c'est votre partie personnelle, je dirais. L'autre jour, quand je suis venu vous voir, je suis allé à votre rencontre, vous m'avez parlé de cordage aussi. Ça m'a étonné. Pour les assises de siège, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, c'est-à-dire j'ai créé des petits modèles de chaises aussi qui sont... ça se sent pas, mais ça demande énormément de travail. Parce que la chaise, c'est très contraignant, il faut que ce soit confortable, il faut que ça puisse être... utilisé tous les jours, il faut que ce soit costaud, que ça supporte des usages pas forcément conventionnels. Et donc, j'ai conçu un petit modèle que j'ai mis au point à travers plusieurs prototypes. Et là, j'ai abouti. Et ce petit modèle, il est entièrement en chaîne. Et il a un petit tressage, un petit canage sur la partie assise qui est en Kevlar.
Donc, alors, le Kevlar, on raconte ce que c'est.
Alors, le Kevlar, c'est une matière issue du pétrole. C'est pas une matière naturelle, mais elle a une capacité de résistance phénoménale, parce qu'un petit brin de couture comme ce que j'utilise, qui doit faire un demi millimètre de diamètre, a la résistance d'un fil d'acier de même diamètre. Et par ailleurs, ça ne se détend pas du tout. Donc ça reste une matière souple qui a une faculté tout à fait unique, ça donne un canage totalement transparent. On voit toute la structure au travers. Et il n'y a pas d'autres matériaux qui permettent d'avoir un petit moelleux tout en ayant une transparence.
On est habitué au canage de nos grands-mères, celui en osier, celui qui cache tout. Oui. Là, vous avez créé de la transparence, du volume, et ce petit siège, cette petite chaise, qui est merveilleusement belle, on la voit dans son intégralité.
Ben voilà, c'est-à-dire que moi, mon idée, c'est que le mobilier n'encombre pas l'espace dans lequel on vit. Et donc, c'est pour ça que cette transparence n'existe absolument jamais au niveau des sièges.
Vous faites des étagères, vous faites des meubles, des tiroirs, vous faites ce qu'on veut finalement, il suffit d'arriver avec l'idée, vous pouvez créer, vous travaillez aussi pour des créateurs. Si vous me permettez, je m'invite dans votre atelier, là on sort de votre showroom, un véritable atelier d'ébéniste, en tout cas de menuisier. Vous faites aussi de l'ébénisterie ?
Moi je fais principalement de l'ébénisterie, c'est-à-dire que moi ce que je fais le moins couramment, c'est de l'aménagement. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas le mobilier de salle de bain, de cuisine, tout ça. Ça m'intéresse un peu moins. Dans la mesure où j'arrive à tirer mon casse-croûte d'œuvres de création, évidemment, j'y vais tête baissée, voire des fois, il faudrait que je me calme parce que tout n'est pas toujours si facile à fabriquer. Il faut inventer des tas de solutions. Mais pour ça, j'ai quand même en place l'outil de travail qui me permet d'affronter et d'aborder pas mal de choses, y compris l'outil numérique.
Alors, puisque on a abordé ces deux termes génériques de ces deux métiers, c'est quoi finalement la différence entre un ébéniste et un menuisier ?
Essentiellement, l'ébéniste, on va dire, il peut être caractérisé parce qu'il fait du meuble meublant, c'est-à-dire c'est un meuble qui peut être sur mesure, mais qui ne dépend pas forcément des dimensions de la pièce. Alors que le menuisier va faire des pièces, des meubles de fonction qui vont être beaucoup plus adaptés dans le cadre d'agencement, à des aménagements, des rangements, des placards, des choses comme ça. Mais l'ébénisterie peut faire aussi des aménagements, naturellement, mais en tout cas, elle est caractérisée par le fait qu'elle peut se détacher aussi du mobilier d'installation et de fonctions spécifiques.
À ce 37 bis très sympathique, si vous allez sur le site internet du 37 bis, vous verrez de nombreux créateurs, de nombreux artisans. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes avec vous parce que on a décidé sur Alic de consacrer une semaine à vos métiers qui sont connus, qui sont reconnus, mais qui sont très souvent finalement, on ne sait pas trop de quoi il en retourne. Moi, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour en parler. Et cet atelier, moi, ça me ravit parce qu'il y a tout ce qu'il faut ici. C'est clair, vous êtes organisé.
Ah oui. j'ai un atelier extrêmement bien équipé pour un atelier parisien. Puis qui a l'avantage d'être assez grand puisque j'ai 170 mètres carrés et j'ai la lumière. Et ça, avoir des ateliers lumineux, spacieux dans lesquels on puisse faire ce métier-là au cœur de Paris, c'est un gros atout parce que ça me permet en même temps de répondre à une demande de fabrication, y compris avec un peu de volume. Et d'autre part, toute la création parisienne peut venir suivre exactement l'évolution de son projet. C'est pas contraignant. S'il faut faire des kilomètres, la banlieue, tout ça. Donc stratégiquement, moi, c'est très très opportun d'être au cœur de Paris.
Car vous venez de le préciser, on peut vous rendre visite, vous la porte est grande ouverte, bien sûr. L'idéal, c'est peut-être de vous passer un petit coup de fil avant, parce que vous êtes un homme très occupé, malgré tout.
Oui, occupé et puis sollicité, parce qu'évidemment, comme on est au cœur de Paris, pas mal de gens passent quand même. Et puis après, effectivement, si on a des projets avec un peu l'idée de ce qu'on peut faire, on peut évoluer là-dessus, quoi.
Vous faites parfois des expositions ?
Moi, j'en fais aussi, oui, dans certains cadres. Je suis présent plus dans des expos un peu de bon niveau, l'atelier des métiers d'art qui a lieu plutôt tous les deux ans au Grand Palais. Et celui-là, ça fait partie des ateliers dans lesquels on a une clientèle qui fait la différence entre les métiers d'art, entre guillemets, un peu plus bricolage, et puis les savoir-faire.
Les savoir-faire, comment vous avez appris le métier? Vous m'avez parlé au départ que vous étiez passé chez les Compagnons à 17 ans, mais comment ça vous est venu l'idée de faire ce métier?
Bon, moi, je ne suis pas du tout issu d'une famille d'ébénos. Hein. Mon père, il était polytechnicien, donc rien à voir avec ça. Mais moi, ça me démangeait. Et puis,
qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite?
C'est vraiment l'envie de faire le bois. Parce que quand j'étais petit, moi, je fabriquais toutes les armes de corsaires, de cow-boys et compagnie. Tout ça, c'était fabriqué en bois à la maison. Et puis, toujours, j'ai été attiré par le travail du bois, mais je voulais aborder le truc de façon sérieuse. Et puis j'avais quand même cette volonté de faire vraiment de la géométrie dans l'espace. Donc quand j'ai fait un stage pour le choix du métier, avant de partir chez Compagnons, j'ai fait une semaine avec des menuisiers qui faisaient des caissons. J'ai fait une demi-journée sous la pluie avec des charpentiers qui levaient une charpente. Et j'ai dit, ah mais c'est ça qu'il me faut, parce que c'est l'ouverture, c'est cette espèce de... dimension incroyable, et puis cette géométrie dans l'espace, que c'est vraiment c'est du graphique, et ça m'a immédiatement intéressé. Et puis c'est assez complexe à fabriquer quand même, parce que ça demande, c'est un métier qui demande pas mal de connaissances de géométrie descriptive, et l'art de la charpente, enfin qu'on appelle le trait de charpente, il est même reconnu au patrimoine immatériel de l'humanité dans sa déclinaison française. On est avec les Japonais, on est vraiment ceux qui sont les plus experts dans ces matières, avec des approches extrêmement différentes. Et celles-ci sont intéressantes parce que justement, on s'observe les uns les autres et là, ça amène encore d'autres perspectives.
Eh ben, j'en ai quelques exemples sous les yeux et je convie tous ceux qui nous écoutent à, essayer de voir s'il y a moyen de vous rencontrer, s'ils sont intéressés par quelque chose qui pourrait être façonné par vos soins.
Moi je travaille plutôt pour des choses un peu délicates. Bon, ça s'adresse pas spécialement au grand public, mais il en reste pas moins que pour une bonne partie, on est quand même pas du tout dans le délire des grandes fortunes et compagnie. Moi, là, beaucoup de clients pour qui je travaille, ils veulent se faire plaisir et puis ils vont choisir une cuisine IKEA, mais par contre ils vont se payer une très chouette de table avec des chaises. Et là, ils mettront un peu plus de budget. Mais je ne m'adresse pas du tout seulement, exclusivement à des gens qui sont pleins d'argent et tout ça. Parce que c'est peu souvent, les gens s'imaginent que mon univers fait que je n'aurai que ces clients. Mais pas du tout. Hein. Les artistes, ils n'ont pas tous des moyens démesurés. Et puis c'est le type de projet, il faut voir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous l'avez dit. Pour moi, ce que vous faites ici, vous êtes un artisan, mais la frontière entre l'artisan et l'artiste, elle n'existe plus à un moment donné. Quand je vois ce que je vois sous les yeux, ce que j'ai sous mes yeux, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Moi, je vous remercie de vous intéresser à ce domaine, parce que c'est vrai qu'il souffre un peu d'une certaine confidentialité. Et autant les métiers du luxe se vantent des artisans qui font travailler, des savoir-faire qu'ils mettent en œuvre, autant vous remarquerez que personne n'est jamais cité. Aucun de ces noms-là qui travaillent pour ces grands univers n'existe, et donc ça reste dans une très grande confidentialité. Et c'est vrai que ça serait pas mal si les gens ils allaient voir de plus près, et c'est des découvertes en général fabuleuses. Moi, dans les journées portes ouvertes qu'on organise ici, les gens ils sortent, ils ont les yeux qui brillent, ils ont envie de faire ça et tout. C'est après, quand ils sont confrontés au métier tel qu'il doit s'exercer, là, des fois, il y a une petite tendance à confondre le loisir créatif et le métier, quoi.
Alors, vous le soulignez à juste titre, il y a la marque et il y a ceux qui, derrière, fabriquent, les artisans, les artistes-artisans. Ceux-là, ils sont un peu dans l'ombre, ils sont même souvent dans l'ombre. Et ça, avec vous, c'est peut-être aussi votre côté un peu militant, j'ai l'impression, faire reconnaître l'existence de ces gens qui fabriquent.
Bah oui, parce qu'il y en a une bonne partie, enfin, il y, Et la maison Hermès qui quand même fait ça à travers une déclinaison et ils associent celui qui fabrique la pièce avec le nom Hermès, mais c'est très 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 rare. La plupart du temps, le savoir-faire est masqué, c'est presque culturel en France, puisqu'une partie des travaux dépendant de la qualité du réalisateur, bah celui qui vendait ça, sa marque, elle était parce qu'il avait ce gars-là sous la main. Donc il ne voulait surtout pas que quiconque sache que c'était lui, puisque sinon, d'autres le faisaient travailler.
Et oui, s'approprier en quelque sorte le travail de l'autre.
Voilà, et puis en le laissant dans l'ombre, donc l'autre ne valorisait jamais son travail, puisqu'il avait peur de perdre ce client.
On rappelle le site internet sur lequel on peut découvrir vos œuvres, découvrir votre travail.
Ben c'est atelierdumeublecontemporain.com.
Et on rappelle votre nom et votre prénom.
Ben moi, c'est Bernard Moffrette.
Voilà, avec le T qu'on prononce, Moffrette.
Voilà, on s'arrête dessus, c'est comme ça en Bretagne.
Voilà, c'est la Bretagne présente à Paris, mais dans un cadre très particulier. Merci Bernard Moffrette de nous avoir accordé cet entretien. Et puis, bah, je suis ravi d'être venu vous rencontrer. J'espère que je ne vous ai pas pris trop de temps.
Non, mais c'est avec plaisir, parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est que ces métiers-là se fassent connaître sous leur aspect magnifique, et puis que les gens prennent à bras le corps et puis que la transmission se fasse comme ça, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de découvertes à faire encore. Moi, je suis fasciné par ce domaine qui est beaucoup plus dans l'exploration que dans la tradition, selon ma façon de faire.
Des savoirs à transmettre, bah, ça sera ma dernière question. Les jeunes, comment vous les voyez arriver ou pas ?
Bah, une bonne partie arrive pour le côté tradition, et puis on a envie de se faire plaisir. Mais moi, je cherche à détecter ceux qui ont cette envie de recherche aussi. Et il y a la technologie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'intéresser à l'évolution de l'outil, notamment de l'outil informatique, parce que lui, il va accompagner de façon formidable le métier, dans la mesure où c'est le professionnel qui s'approprie l'outil. Parce que si c'est l'outil qui maîtrise le professionnel, comme on peut le voir dans les industries, alors là, par contre, le métier est dégradé. Mais si c'est le professionnel qui s'approprie l'outil, là, le métier est valorisé.
Alors c'est vrai qu'ici, il y a des rabots, il y a des serre-joints, il y a des ciseaux à bois, il y a des maillets, enfin il y a tout ce qu'il y a dans un atelier d'ébéniste traditionnel, mais il y a aussi un ordinateur et une machine qui fonctionne sur programmation.
Ben voilà, moi j'ai deux petites machines à commande numérique, et là-dessus, toute la préparation, tout le projet d'étude est étudié en informatique, et je travaille aussi avec des sous-traitants et des partenaires qui eux-mêmes reçoivent les fichiers numériques et peuvent... sans avoir besoin de se déplacer, préparer les pièces en usinage, en fabrication, en sous-traitance, de façon à faire face avec l'outil le plus approprié possible au projet, ce qui permet aussi de le mettre au prix le plus étudié possible. Parce qu'il y a toujours une notion de prix, il faut toujours essayer d'être le plus proche possible d'un budget raisonnable.
Eh bien, vous l'avez bien expliqué, vous l'avez bien raconté, l'informatique au service de l'artisan, au service de l'ébéniste, ce qui n'empêche pas la création loin de là, ce qui facilite un certain nombre d'opérations et ce qui permet probablement de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avec simplement le ciseau et le maillet, peut-être.
Ah oui, mais c'est complètement évident. Il y a des domaines dans lesquels, sans cet outil-là, on peut le faire, mais c'est complètement inabordable.
Et bien sûr, ces jeunes qui viennent vers vous, vous accueillez, j'imagine, des apprentis, vous accueillez des futurs professionnels. Comment ça se passe ?
Alors moi, je prends jamais d'apprentis débutants parce que c'est pas possible. Il y a une nécessité de s'adapter qui fait que l'autonomie minimum doit être dans le bagage. Donc c'est des apprentis qui ont déjà un petit bout de route. Et puis à côté de ça, je les prends pour des durées de 1 an ou 2 ans selon les cas de figure. Et dans le meilleur des cas, ils deviennent... soit ils peuvent être embauchés, alors ça, j'en ai pas beaucoup parce que je peux pas avoir une grosse charge, mais une partie d'entre eux sont devenus auto-entrepreneurs. Et du coup, ils viennent joindre l'équipe aussi dans le cas où j'ai besoin de compléter l'équipe pour des travaux plus amples. Et ça, c'est une formule qui marche assez bien. Et puis ici, on fonctionne à deux plus apprenti et stagiaire. Et donc c'est sur cette équipe minimum. Après, je rajoute tout ce qu'il faut pour avoir des gens qui sont dans ma sphère et qui correspondent à des qualifications qui sont nécessaires.
Dans l'étincelle dans la ville, Monsieur Moffrette, vous avez accepté de nous recevoir. On vous en remercie encore une fois. Et bah, je n'ai qu'une chose à dire. Consultez le site internet. On le redonne une deuxième fois, le nom du site.
Atelierdumeublecontemporain.com.
Atelierdumeublecontemporain.com. Voilà. Et puis, bah, bonne continuation. Bonne navigation, je dirais. C'est aux marins que je m'adresse.
Oui, merci. Et puis, bah, c'est formidable de vous intéresser à ça et de soulever tout ça, c'est assez rare et moi je rends hommage à cette transmission par le biais des ondes.
Merci beaucoup et tenez-nous au courant s'il se passe des choses, on sera ravis de revenir vous faire un petit coucou. À très bientôt.
À bientôt, bonne continuation.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de l'étincelle dans la ville. Présenté par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Comme une artisane, elle utilise son corps pour créer. C'est avec ses cordes vocales et ses doigts qu'elle nous interprète ce qui va suivre. Le titre de la chanson, c'est Learn Your Lesson et elle s'appelle Madison McFerrin.
Been just fine without you here. Maybe that's a sign you're no good. You'll figure it out, out. But until then, I'll be anywhere else. So maybe you should learn your lesson.
Maybe you should. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Ouh là là, ouh là là, c'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Oui, et oui, c'était Madison McFerrin, Learn Your Lesson. Et qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Eh bien, on continue notre petite balade dans l'étincelle dans la ville. C'est la suite avec un deuxième invité, toujours au même endroit, au 37 bis. Alors, j'ai pas donné l'adresse, je vais vous la confirmer maintenant. C'est le 37 bis. Rue de Montreuil, ça s'appelle la cour de l'industrie, et là, on va rencontrer un personnage qui fait un drôle de métier.
Virgile Vos, c'est quoi l'arc idéal?
L'arc idéal, c'est comme, si je vais faire une réponse un peu bateau, mais c'est l'arc qui vous plaît, ou en tout cas pour mes clients, c'est quand ils viennent, c'est tous les bois qu'ils ont choisis, et l'arc qu'ils ont fantasmé, et donc on en parle, et je leur fabrique. Ça, pour eux, c'est leur arc idéal. Moi, j'ai le mien aussi, dans mon idéal, dans ma tête et dans la façon de m'en servir, qui se rapproche plus, pour moi en tout cas, du Japon et de la simplicité et de la pureté, leur façon d'aborder le travail, il me plaît énormément. Donc pour moi, l'arc idéal, il est là, il est dans la simplicité, choisir les bois les plus simples possibles, qui soient vraiment très discrets, à la limite on voit pas qu'il y ait des choses un petit peu trop décorative, trop. Voilà. Moi, pour moi, l'arc idéal, c'est ça. C'est un arc qui est tout simple, c'est un dessin d'enfant.
Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Virgile Vos, bonjour. Merci de nous accueillir dans l'étincelle dans la ville. On est chez vous dans votre atelier. Vous êtes un passionné d'arc, vous venez de nous le raconter en introduction. Passionné d'abord par les métiers du bois. C'est comme ça que vous avez commencé, comme ébéniste, on va dire, à partir du moment où vous avez mis le doigt dans l'engrenage de la fabrication des arcs, c'est déjà une démarche d'ébéniste.
C'est ça. J'ai une formation d'ébéniste. J'ai une formation d'ébéniste et de marketeur, qui remonte à une vie d'avant, que j'ai arrêté ensuite très vite pour faire un autre métier pendant une trentaine d'années. Et aujourd'hui, je suis revenu à mes premières amours, qui sont le travail du bois, quoi. Parce que c'est un matériau qui me plaît et qui me parle beaucoup, quoi.
Juste avant de démarrer cet entretien, je vous ai demandé comment vous êtes tombé dans la marmite. Alors, racontez-moi.
Je suis tombé dans la marmite comme tous les enfants qui ont grandi à la campagne. On va se promener, on prend une branche de noisetier, on fait un arc, on tire des flèches et j'ai pas arrêté. C'est resté comme ça et ça m'amuse toujours autant. Alors aujourd'hui c'est un peu plus élaboré, c'est un peu plus esthétique, c'est un peu plus tout ce que vous voulez, mais l'idée première est toujours la même, c'est-à-dire aller tirer des flèches comme quand on était gamin parce que ça nous amuse, quoi.
Alors, vous êtes fabricant d'arc, facteur d'arc. Je ne savais pas que ça existait, ce terme, facteur d'arc. Alors, c'est comme un facteur d'instrument.
C'est comme un facteur d'orgue. Oui, c'est ça. C'est un nom dont on se sert pour plein de choses dans la fabrication. Ouais.
Vous êtes très peu nombreux en France.
Oui, très peu. Très peu, on doit être, je pense, moins d'une dizaine à ne faire que ça. Après, il y en a un petit peu plus qui font ça un peu le week-end ou pour eux ou pour les copains, etc. Mais en France, on est très peu. En revanche, aux États-Unis, il y a beaucoup de facteurs d'arc. C'est une discipline qui existe depuis longtemps et c'est même eux qui ont remis l'archerie traditionnelle au goût du jour. Et donc moi, quand j'ai appris via des livres américains, des écrits américains, parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Et j'ai appris en lisant que de la littérature anglo-saxonne. Tout ce que je trouvais en français, c'était vraiment très, 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 très vieux. Et il y avait très peu de choses sur la technique de fabrication.
On va entrer dans le détail, justement. Comment ça se passe, comment vous fabriquez, à qui s'adressent vos arcs. Mais vous êtes avant tout un archer aussi, vous tirez régulièrement.
Tout le temps, quasiment tous les jours, je tire à l'arc. quasiment tous les jours, déjà parce que je dois tester le matériel que je fabrique, c'est quand même mieux, et puis parce que c'est une forme de zen, ça apaise le tir à l'arc, hein. Tirer des flèches, c'est vraiment quelque chose qui calme et qui fait du bien à l'âme, et donc oui, je tire à l'arc tous les jours dans mon petit atelier, je fais mes séances de tir ici, pour le mouvement, pour me vider la tête, et puis le week-end, je vais tirer à l'arc avec les copains, parce que c'est aussi ça le truc, c'est de se retrouver entre copains et d'aller tirer des flèches et de rigoler, quoi.
Alors, deux zones de tir, une chez vous. Comment vous faites chez vous pour tirer à l'arc?
Chez moi, dans ma maison, vous voulez dire?
Ah, dans votre maison, pas ici, dans votre atelier.
Ici, dans l'atelier, je tire. Dans l'atelier, je tire, j'ai une cible que je mets là-bas. Alors, c'est sûr que la distance n'est pas importante, mais ça me permet de travailler la gestuelle. Et effectivement, le week-end, là, il y a plus de place et c'est beaucoup moins dangereux. Donc, je peux aller tirer avec des distances beaucoup plus importantes, quoi.
Et j'ai découvert, en consultant votre site internet, que la première chose à laquelle vous vous êtes intéressé, c'est à la réalisation d'arcs dits primitifs, constitués d'une seule pièce de bois pour comprendre le fonctionnement d'un arc et la façon dont pouvait réagir le bois sur certaines contraintes. Je lis ce qu'il y a sur votre site. C'est ça, racontez-nous.
C'est exactement ça. Comme je vous disais, étant donné que j'ai acheté beaucoup de littérature américaine, il y avait beaucoup de facteurs d'arc américains qui ont commencé également comme ça. Et je me suis inspiré d'eux en me disant il faut commencer par le départ pour comprendre comment un morceau de bois va réagir sous certaines contraintes. Par exemple, sur un morceau de bois, si vous fabriquez un arc et que vous découpez dans le bois directement, l'arc il va casser. Il ne pourra pas tenir. Et en fait, il faut suivre une seule cerne, du début à la fin, et c'est ça qui va donner l'élasticité, la nervosité de l'arc et sa puissance, etc., etc. Mais ça, c'est très compliqué au début quand on ne sait pas le faire. C'est très compliqué. Et tout ça, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait un morceau de bois sous la contrainte. Et c'est très important pour la suite. Même si aujourd'hui, moi, ce que je fabrique, c'est des arcs qui sont lamellés-collés. Donc, il y a des lamelles de bois avec de la colle et par-dessus de la fibre de verre. C'est un peu, pour résumer, comme un ski. C'est plusieurs couches où pas vraiment un surf, mais plutôt un ski. Oui. Une paire de skis, c'est comme ça. C'est plusieurs laminations avec par-dessus la fibre de verre, etc. Ça vous permet d'avoir une régularité et d'être moins embêté par les contraintes mécaniques du bois. Mais c'était pour moi important de passer par le côté primitif et monolithe pour pouvoir comprendre comment fonctionnait le bois.
Et vous êtes intéressé aux Inuits, parce que j'ai découvert, grâce à votre site, que avant qu'ils aient accès aux fusils de chasse, ils chassaient à l'arc.
Ouais, alors il n'y a pas que les Inuits. Et d'ailleurs, les Inuits, c'est ceux qui servaient les moins des arcs des Indiens d'Amérique du Nord. Mais chez nous, en France, tout le monde se servait des arcs. Avant que la poudre arrive et que les armes à feu arrivent, tout le monde chassait à l'arc ou en piégeant. Donc aux États-Unis, évidemment, les Amérindiens, comme on connaît tous, chassaient beaucoup avec les arcs. Ou avec des systèmes de fronde, des systèmes de piégeage, mais en France également, en Europe également, en Asie également. Les Inuits, c'est plus quelque chose qui, moi, me passionne à titre personnel, mais ça a presque rien à voir avec l'archerie. C'est des gens qui... J'adore l'art inuit, ce sont des gens qui me passionnent, et j'adore le Grand Nord d'une façon générale. D'ailleurs, le deuxième prénom de mon fils, c'est Inuk, qui veut dire en inuit « l'homme debout ». Et il a été baptisé par un chaman inuit. Donc c'est une région du monde qui me passionne, mais qui n'a pas vraiment à voir avec l'archerie ou avec mon travail aujourd'hui.
Alors, vous nous avez raconté un peu l'univers dans lequel vous naviguez. On l'a bien compris, vous êtes un passionné de cette discipline, un passionné de la fabrication de cette arme. Ça reste néanmoins une arme.
Ouais. Non, ça reste une arme. Vous avez raison de le souligner, ça reste une arme. Il faut faire attention. C'est une arme létale. D'ailleurs, en France, beaucoup de gens chassent à l'arc. De plus en plus, d'ailleurs, parce qu'il y en a plein qui raccrochent le fusil pour diverses raisons, et je vais sûrement pas être leur porte-parole, mais il y en a plein qui raccrochent le fusil pour passer à l'arc, pour avoir d'autres sensations, pour avoir une difficulté supplémentaire, pour avoir un retour aux sources. Moi, les trois quarts de mes clients, pour être totalement transparent avec vous, sont chasseurs à l'arc. Hein. Les trois quarts de mes clients chassent à l'arc. Et donc, c'est chasse à l'arc avec des arcs traditionnels, ce qui rend la chose encore un peu plus compliquée que quand on a des arcs dits à mécanisme ou à poulie, qui vous permettent plein de choses, qui facilitent la chose. Quoi. Donc, chasser avec un arc traditionnel, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un vrai engagement. Ça vous demande de parfaitement bien connaître la nature, parce que 99% du temps, ce sont les animaux qui gagnent. Enfin, si on met ça à un titre de jeu, ce sont les animaux qui gagnent. Donc, il y a beaucoup de déceptions. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent parce qu'en fait, ils n'ont jamais rien avec un arc, parce qu'ils ne prennent pas le temps de rester en forêt, de regarder le vent, d'étudier les oiseaux, de les écouter, d'étudier la nature, de regarder ce qu'on appelle les coulées, qui sont les chemins qu'empruntent les animaux, etc., etc. Donc ça, c'est une science qui s'est un petit peu perdue avec le temps et avec la facilité de l'arme à feu, parce que l'arme à feu, ça permet de tirer de très très loin. Un arc, avec un arc, quand vous êtes à la chasse, vous tirez entre, on va dire, entre 7 et 15 mètres. Donc c'est très très près, et vous allez dans un environnement qui n'est pas le vôtre, mais qui est le leur. Et donc c'est très très compliqué de les berner, c'est vraiment très compliqué. Enfin, je passe mon temps à dire ça, mais s'il n'y avait que des chasseurs à l'arc en France, il y aurait des cerfs qui se promèneraient dans Paris. Hein. Je peux vous assurer que c'est tellement difficile que la récolte n'est pas extraordinaire. Quoi. Mais c'est une quête qui me plaît, c'est une quête qui va avec le reste pour moi. C'est que, par exemple, moi je suis chasseur à l'arc et je ne mange que la viande que je tue. Ou que je récolte, ça dépend des termes que les gens veulent utiliser.
Donc à l'arc.
Je ne chasse uniquement à l'arc. J'ai pas d'arme à feu, j'ai horreur de ça et j'aime pas la chasse au fusil. Je chasse uniquement à l'arc et je ne mange que la viande que j'ai prélevée ou tuée.
On a vu un peu, on a continué avec vous ce parcours que vous nous décrivez qui est incroyable. Et en même temps, je suis dans votre atelier aujourd'hui avec vous. C'est le fabricant aussi que nous sommes venus rencontrer. Comment ça se passe? Comment on fabrique un arc?
Alors comment fabriquer un arc, ça c'est un vaste sujet, mais pour pas que ce soit, comment dire,
On choisit, j'imagine, déjà le bois, l'essence du bois.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie mécanique, on va dire l'âme de l'arc. Moi j'utilise toujours du bambou, parce qu'en fait c'est très constant, ça me permet, parce qu'en fait quand quelqu'un vient choisir un arc chez moi, il vient également choisir la puissance de l'arc. À son allonge. L'allonge d'un archer, c'est la distance qu'il y a entre la main qui tient l'arc et la main qui tient la corde quand vous êtes en tension. Tout le monde a une allonge différente. Donc moi, je calcule ça et on détermine la puissance. Donc je prends du bambou parce qu'en fait, ça pousse très très vite, c'est très constant. Ce qui me permet, quand moi je fabrique, de retomber dans les clous et de pouvoir calculer les bonnes puissances pour le client.
Vous avez des données stables avec le bambou?
J'ai des données stables avec le bambou. Après, ça reste de l'artisanat. Il y a des moments où je me rate aussi. Mais bon, c'est quand même relativement rare. Par-dessus ce bambou, il y a un plaquage de bois qui est uniquement esthétique. Et ça, des plaquages, il y en a des centaines et des milliers. Moi, je me contrains juste à utiliser que des arbres ou des végétaux qui ne sont pas protégés à la Convention de Washington. C'est-à-dire que sur les arbres et la végétation, il y a une protection, comme pour les défenses d'éléphants, par exemple. Vous avez la Convention de Washington qui protège ça, ce qui permet que vous n'alliez pas détruire une forêt, je ne sais pas où dans le monde, parce que d'un seul coup, vous trouvez un morceau de bois joli, quoi. Donc moi, j'utilise que des bois qui sont très communs, en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.
Quel genre de bois ?
Ah bah c'est des bois avec des noms qui s'appellent des cocobolos, des bocotes, des ébènes du Laos, de l'ébène de Macassar. Mais vous avez également du chêne, du noyer, du hêtre, parce qu'il y a des très très jolis arbres avec des très belles veines en France. Et il y a aussi des arbres qu'on ne trouve pas en France, mais il y a une essence que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, qui s'appelle le laurier de Californie, qui pousse en Oregon et en Californie, comme son nom l'indique, et qui est ultra commune. Mais il y en a partout. Ils font des poteaux télégraphiques avec. Sauf que cet arbre, il est absolument magnifique et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc voilà, ça c'est le genre d'essence que j'utilise parce que c'est pas protégé et c'est super joli. Donc voilà, ça ce sont mes limites. Pas de convention de Washington, pas d'annexe 1, 2 ou 3. Il y a plusieurs annexes en fonction de la rareté et de la dangerosité de l'espèce, peu importe.
Si elle est menacée, elle est protégée.
C'est ça, elle est protégée et donc vous devez avoir ce qu'on appelle un papier de CITES, de la convention de Washington. Si moi j'utilisais ces bois-là, que je devrais donner à mes clients, et ils devraient se promener avec ce papier quand il va se promener avec son arc. Donc moi je veux pas de ça. Si c'est protégé, ça veut dire qu'il y en a plus, donc faut plus y toucher, il faut arrêter, quoi. Il y a encore une fois, il y a énormément d'essences qui sont communes et qui sont absolument sublimes. Donc voilà, je me limite à ça. Voilà les limites.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
On vient de parler de l'arc, on va parler des flèches aussi. Il faut des munitions.
Il faut des munitions. Alors les flèches, elles sont fabriquées en fonction de l'archer. Donc en fonction de la puissance et de la longe, ce dont je vous parlais précédemment. Parce qu'en fait, une flèche, À l'œil, ça vole droit. Quand on regarde une flèche voler au ralenti, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'archer. Une flèche, ça godille, ça vole comme ça. Comme ça, et ça tourne sur elle-même, comme une ellipse. Et en même temps, ça avance un peu comme un poisson ou un serpent. Ça, c'est quand c'est au ralenti. Cette déformation qui est dans la flèche, elle est absolument capitale et elle est calculée en fonction de la puissance de l'arc utilisé. Donc ça, après, on rentre dans des considérations un peu compliquées, mais ça, c'est ce que moi, je calcule pour le client, c'est quelque chose qu'on détermine ensemble. Une fois que j'ai fabriqué son arc qui est sur mesure, comme vous feriez faire, je ne sais pas, un costume ou une paire de chaussures, une fois que l'arc est fabriqué pour l'archer, moi, je l'aide à choisir et à déterminer le projectile parfait qui va aller avec son arc et avec lui.
Le projectile parfait, voilà le but avoué, Virgile Vos. On a parlé de l'arc, on a parlé de la flèche, de la munition. Alors la cible, on en a évoqué quelques-unes, les chasseurs dont vous faites partie. Mais j'imagine que vous tirez aussi sur des cibles.
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je fais quelque chose, je chasse très peu en fait sur l'année, c'est pour résumer, mais je fais une chose qui s'appelle de la bilbaude. Et c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Alors, il y a plusieurs façons d'aller tirer à l'arc. Il y a effectivement les compétiteurs qu'on voit.
Alors, bilboude, on raconte.
Je vais vous expliquer. Il y a les compétiteurs, comme on voit, qui tirent sur des cibles avec les couleurs jaune, bleu, rouge, blanc, etc., etc. Ensuite de ça, vous avez des compétiteurs qui font du tir 3D. C'est-à-dire que vous avez des cibles d'animaux en trois dimensions qui sont en mousse. Donc, vous comptez vos points, etc. Et il y a une autre discipline qui est de tirer sur des blasons animaliers, mais qui sont du papier, qui ont des formes d'animaux, et pareil, vous comptez vos points. Faire de la bilboude, c'est se promener dans la forêt et tirer sur ce que moi je préfère, sur des chimères. C'est-à-dire que vous allez voir une racine d'un arbre qui est mort et vous vous imaginez que je sais pas quoi, que c'est un animal ou un monstre ou je sais pas quoi, et vous essayez de placer votre flèche comme ça, ou alors il va y avoir un ray de lumière qui va taper sur une pomme de pin, et voilà. Moi, c'est ce côté poétique que j'aime dans le fait d'aller tirer, et en même temps, c'est un entraînement. En même temps, c'est très agréable. Moi, il y a un truc que j'adore par-dessus tout, c'est de voir voler ma flèche. Je trouve ça absolument formidable quand la flèche quitte le tapis de l'arc, enfin, le repose-flèche, et qu'elle part et qu'elle vole, je trouve cet instant absolument incroyable. Et j'adore ça. Après, le but, c'est encore autre chose, mais juste le moment où la flèche quitte mon arc et qu'elle part, c'est une sérénité absolue pour moi. Et j'adore ça, quoi. Donc, voilà.
Avec beaucoup de poésie, vous nous racontez cet instant où la flèche quitte l'arc et ce moment d'extase, moment de jouissance, quelque part.
Oui, bien sûr que c'est un moment de jouissance. Bien sûr que c'est un moment de jouissance. C'est un moment de jouissance comme il y en a plein, mais c'est vrai que c'est un moment de jouissance qui est très égoïste. C'est en tout cas, le tir à l'arc, moi, le tir à l'arc, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que l'état dans lequel vous êtes au moment où vous prenez votre arc et votre flèche, vous ne pouvez pas le retirer. Si vous avez eu des contrariétés dans votre semaine, dans votre journée, je ne sais pas, de travail, de famille, de peu importe, ça va se ressentir quand vous allez tirer à l'arc. Vous ne pouvez pas tricher. C'est le reflet de votre âme quand vous allez tirer à l'arc. Donc si vous êtes nerveux, peut-être que la flèche va faire du bruit en quittant l'arc, elle va voler de travers, elle ne va évidemment pas atteindre son but. Et si elle l'atteint, de toute façon, vous allez être déçu parce que vous n'avez pas eu l'impression d'avoir tout contrôlé. Il y a une grande histoire de contrôle, mais il y a aussi une grande histoire de lâcher prise. C'est une espèce d'équilibre quand on va tirer à l'arc. Donc il y a ce contrôle parce que vous contrôlez la technique, vous armez votre arc, vous visez... vous visez, et ensuite vous laissez partir, ou vous ne laissez pas partir. C'est ça le contrôle.
Et oui, c'est vous qui décidez le moment où ça va se passer.
C'est ça, c'est vous qui décidez, et ensuite de ça, il y a quand même cette part qui vous échappe, c'est quand la flèche vole. Ok, vous avez choisi une destination avec un but, mais il peut se passer plein de choses pendant ces quelques secondes où la flèche vole. Et c'est vraiment cet instant que j'adore, parce que j'ai contrôlé tout le reste, et là, la flèche est partie, elle, c'est elle qui décide. Et c'est ça que je trouve formidable, et c'est ça que j'adore voir, c'est vraiment ces quelques secondes du vol de la flèche qui m'échappent totalement et qui me procurent une plénitude incroyable, quoi.
En votre compagnie, Virgile Vos, dans l'Étincelle dans la ville aujourd'hui, vous nous recevez, vous nous racontez ce que sont les arcs, parce que vous les fabriquez, vous êtes facteur d'arc, vous êtes aussi utilisateur de l'arc, vous êtes passionné de l'arc. Depuis le début de cet entretien, vous nous décrivez avec précision. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour donner à d'autres d'avoir envie de tirer à l'arc? Parce que j'imagine que faire des émules, ça vous intéresse aussi.
Oui, ça m'intéresse. Je ne sais pas si ça m'intéresse. Je pense que ça peut intéresser les gens. Je ne sais pas si moi, ça m'intéresse. Moi, je sais que j'aime ça. J'aime ça depuis très, très longtemps. Il y a des périodes où je ne tire pas du tout à l'arc parce que je n'ai pas la tête à ça. Et je pense que ça peut intéresser les gens parce que vraiment, ça fait du bien. Et c'est quelque chose qui est très étonnant dans le monde dans lequel on vit. L'arc, un peu, c'est un peu comme toutes ces nouvelles modes de la slow food, etc. C'est des moments un peu suspendus où vous prenez le temps. Vous n'êtes pas sur votre téléphone, sur votre iPad, sur votre je ne sais pas quoi. Vous êtes au milieu de la nature ou en tout cas dans un bel endroit. Pour moi, ça, c'est capital. Je ne vais pas tirer de flèche si l'endroit ne me plaît pas. Si je trouve ça moche autour de moi, je n'irai pas tirer de flèche parce que tout est lié, en fait. Il faut que l'endroit soit beau, que la lumière soit belle, que le moment soit bien. Et en ça, je trouve que les gens devraient essayer parce que vraiment, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien.
Et si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous recommander d'aller sur votre site internet.
Alors, mon site internet, c'est norsarcherie.com. Nors, c'est norsarcherie.com.
Voilà. Nors comme le nord, en anglais. Archerie comme...
Comme l'archerie. Je l'ai mis en anglais aussi. Et j'ai vécu, enfin, je l'ai mis en anglais parce que j'ai aussi une grosse clientèle anglaise, etc. Et que le nom, c'était comme ça. Le Nord, parce que j'adore, comme je vous disais, j'adore ces pays, j'adore les pays nordiques et j'adore les gens du Nord. Donc voilà.
Et bien sûr, on peut y voir les modèles que vous avez fabriqués ou que vous fabriquez.
On voit, en fait, si on voit tous les modèles que je présente, et ensuite de ça, la partie esthétique, ça, c'est ce qu'on décide avec le client. Parce que j'ai des clients qui vont me dire j'adore le rouge, trouve-moi des essences de bois qui sont rouges, et donc après ça on travaille et c'est là où le client intervient et qui met sa patte justement pour s'offrir son jouet et créer son jouet quoi.
Dans le cadre de l'émission L'étincelle dans la ville, nous participons donc à la semaine Les mains ont la parole sur Aligre FM. On s'intéresse aussi aux jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ce métier de facteur d'arc?
Facteur, je sais pas, de participants au tir à l'arc traditionnel, oui, et de plus en plus. Oui, de plus en plus, et ça c'est très engageant et ça fait plaisir. Il y a plus en plus de gamins, mais parce qu'il y a toujours ce côté ludique, c'est-à-dire que si on leur montre, comme nous quand on était gamin ou comme moi quand j'étais gamin, qu'on allait taper dans un ballon ou qu'on allait tirer des flèches, ça nous éclatait. Et les gamins, si on leur montre de cette façon-là, ça les éclate aussi. Ils vont tirer des flèches, au bout d'un moment, ils vont avoir des réussites. Parfois, ils n'en auront pas, ils vont être frustrés et ils vont apprendre ce que c'est que la frustration. Et ils vont jouer et il y a un partage parce que vous faites ça avec les copains, vous vous charriez un petit peu. Donc, il y a un truc en opposition à tout ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui. C'est-à-dire se mettre le cul dans un canapé et regarder la télé. Quoi. Et ça, c'est formidable. Et il y a plein de mômes qui s'y mettent. Même si, je ne veux pas faire le boomer, hein, même si j'ai rien contre la télé, etc. Il y a plein de choses, on apprend plein de choses à la télé et à la radio et c'est formidable, mais... De temps en temps, sortir, juste sortir, et faire des choses, que ce soit du football ou aller tirer des flèches avec des copains, c'est un moment de partage qui est absolument incroyable. Et les gamins adorent ça, les gamins s'amusent.
Un moment de partage avec une organisation où il faut être précautionneux et prudent, il faut bien le rappeler.
Il faut effectivement bien le rappeler et bien souligner qu'un arc, c'est une arme. Mais c'est une arme au même titre qu'un club de golf. Donc voilà. Mais il n'empêche qu'il faut faire attention, qu'il y a des règles, qu'effectivement, quand quelqu'un tire une flèche, on ne se met pas à courir pour aller récupérer la sienne. On attend que tout le monde ait fini. Mais ça, c'est pareil. C'est des règles de savoir-vivre. C'est-à-dire que si vous êtes 5 ou 6 ou 10 à tirer sur chacun sa cible, tant qu'il y a un des participants qui n'a pas fini de tirer, bah, vous attendez. Et puis après, quand tout le monde a fini, bah, tout le monde pose son arc, tout le monde va chercher ses flèches, on discute et on partage. Voilà, on partage. Mais c'est une arme, vous avez raison de le rappeler, il faut faire attention.
On partage, et bien ça sera le mot de la fin, Virgile Vos. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, et puis, bonne continuation.
Merci beaucoup, je m'amuse, et j'espère que ça va durer longtemps.
Et j'espère que nos auditeurs ont pris plaisir à découvrir un peu plus avec vous cet univers de l'arc, qui au départ semble effrayant, c'est une arme, mais qui en réalité apporte beaucoup de bien-être. En tout cas, c'est ce que vous nous racontez.
Oui, il ne faut pas voir ça, et encore une fois, il faut faire attention, mais il faut voir ça plus comme quelque chose de poétique, enfin en tout cas dans mon cas, comme quelque chose de poétique, d'agréable, qui vous vide la tête, qui fait vraiment du bien et qui fait se regarder, qui fait se remettre en question, je vous dis, quand on n'a pas de réussite, parce que moi, il y a plein de jours où j'ai pas de réussite et je peste, et en fait, je peux me battre contre rien. Donc, je pose l'arc, j'attends, je regarde, et je recommence quand je suis calme. Et ça, c'est bien, parce que ça vous apprend plein de choses sur vous, d'aller tirer des flèches.
Merci infiniment, Virgile Vos.
Merci à vous.
Voilà, l'étincelle dans la ville, c'est terminé. Je tiens à remercier tout particulièrement Enrico
Mastro Giovanni, je l'ai bien prononcé, hein. Et pourquoi je le remercie? Bah, tout simplement pour sa mise en onde et pour tout le travail effectué à la technique et à la régie. Et puis bien sûr, je remercie aussi toute l'équipe technique qui travaille à cette régie. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.
Les brouillages de sinistre mémoire ont repris.
En cas de brouillage, cherchez Noyeur sur votre cadran.
À Lille FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.